pense qu'il y a un deuxième facteur clé de succès, c'est le fait que le truc va vraiment avoir de l'impact. Ça, c'est absolument essentiel dans ce qu'on construit.
Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis vraiment heureuse de vous partager l'épisode d'aujourd'hui, et tous les épisodes des semaines qui arrivent d'ailleurs, car après avoir reçu pas mal de personnes que je connaissais déjà, car c'est vrai que c'est plus simple pour organiser des enregistrements, j'ai contacté des personnalités très diverses, et vous aurez dans les semaines à venir aussi bien des acteurs, des sportifs de haut niveau, que des hommes politiques ou encore des entrepreneurs. Et cette semaine, je reçois quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas encore, mais qui, je suis certaine, vous ne regretterez pas d'avoir découvert, bien au contraire. Car Léa est un peu hors du commun. À 15 ans seulement, elle fonde l'association AIDA, une association qui soutient les jeunes malades à l'hôpital. Aujourd'hui, soit 6 ans plus tard, AIDA rassemble plus de 80 000 bénévoles et plus de 20 salariés, tout cela chapeauté par Léa, qui a 21 ans aujourd'hui. Le parcours de Léa, c'est un peu la définition de prendre le pouvoir de sa vie. Léa n'a pas écouté ce que tout le monde lui disait, à savoir qu'elle était trop jeune pour créer sa propre association, que le projet ne marcherait pas, que personne ne la prendrait au sérieux. Elle a décidé de s'écouter, d'oser et de vivre selon ses propres désirs et convictions. Alors, vous allez le voir, être à la tête d'une aussi grosse structure à un aussi jeune âge vient avec son lot de difficultés, de remises en question, de doutes, mais Léa a su à chaque fois en tirer des enseignements pour progresser et continuer à avancer. Si cet épisode vous plaît, ou si ce n'est pas la première fois que vous écoutez In Power, pensez à laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je sais qu'on ne pense pas souvent à dire quand on aime bien, moi la première, mais croyez-moi, ça fait vraiment hyper plaisir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Léa Moukanas. Bonjour Léa.
Hello, hello.
Bienvenue sur In Power.
Merci.
Très enchantée de te recevoir parce que même si on s'est vu une fois, au final, je ne connais rien de ton parcours, de ton histoire. Donc, on va parler de tout ça parce que, quand même, petit disclaimer, c'est marrant parce que moi, on me dit souvent ouais, t'es jeune quand même pour ce que tu fais et tout. Léa est encore plus jeune que moi. et franchement, très admirative. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter de la façon dont tu le souhaites?
Yes. Alors, je m'appelle Léa Moukanas, j'ai 21 ans. Et il y a 6 ans, à 15 ans, j'ai créé une association qui s'appelle AIDA, avec l'objectif de pouvoir soutenir les jeunes qui sont touchés par un cancer.
Ok. Donc ça, c'est toi, version très pro. Est-ce que tu peux aussi te décrire, parce qu'à côté, tu es étudiante.
Yes.
Puis voilà, ouais, dis-nous un peu plus sur toi.
À côté, je suis étudiante à Sciences Po, donc ça nous fait un point commun. Et je suis aussi des cours à la Kennedy School aux US. Donc ça, c'est ce que je fais à côté et donc je cumule les deux aujourd'hui.
Alors bon, dis-nous du coup, attends, parce que le calcul 21 moins 6, ça fait donc 15. Tu as donc créé AIDA à 15 ans.
C'est formateur Sciences Po, en tout cas, en termes de calcul.
Ah, n'est-ce pas ouais. Calcul mental,
c'est pas mal, c'est,
j'ai été recrutée pour ça.
On est bien là.
C'était l'exo d'entrée. Non, est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe pour toi à 15 ans pour te dire « Ok, j'ai... » que 15 ans, mais je vais quand même créer une asso.
Ouais. Bah, j'étais en seconde à cette époque et ma grand-mère qui s'appelait Aïda est tombée malade, elle a eu une leucémie, donc un cancer du sang. Et en fait, c'est vrai qu'elle est décédée hyper vite. Et moi, j'étais très proche de ma grand-mère, elle était très engagée, elle, dans le monde associatif. Et quand elle était malade et puis quand elle est partie, je me suis dit, moi aussi, j'ai hyper envie de m'engager, j'ai hyper envie de pouvoir soutenir la cause, d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai contacté des associations en leur disant « Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, j'aimerais beaucoup pouvoir m'engager ». Et c'est vrai que j'étais très surprise parce qu'à chaque fois, on m'a répondu que j'étais trop jeune, qu'il fallait que je revienne plus tard, quand j'aurais passé mon bac, quand je serais à l'université. Et c'était toute cette période, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on parlait de notre génération comme étant la génération canapé, la génération bonne à rien faire, qui n'a pas d'avenir, un peu l'équivalent de la génération sacrifiée d'aujourd'hui.
Mmh.
Et donc j'étais assez marquée, je trouvais ça assez injuste. Et quand ma grand-mère était à l'hôpital, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes de mon âge, des ados et des jeunes adultes, qui étaient à l'hôpital toute la journée, qui étaient entourés d'adultes, mais qui voyaient plus de jeunes comme ce que moi je pouvais voir en cours. Et donc je me suis dit que j'allais créer une association au départ pour juste permettre à ma classe d'aller rendre visite aux jeunes dans l'hôpital le plus proche. Ça a vraiment commencé comme ça.
Et qu'est-ce que ton entourage a dit? Est-ce que toi, t'as pas trouvé ça compliqué, les démarches administratives de création d'une association? Parce que c'est vrai qu'entre avoir l'idée et la mettre en œuvre, y a un petit monde. Et j'imagine que ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain.
Mais c'est vrai, tu as raison. À cette époque-là, pour créer une association, il faut avoir 16 ans.
Ouais.
Moi, j'en avais 15. Je venais d'avoir 15 ans. Et bon, tu as eu la première barrière administrative, du coup, qui est que si tu avais moins de 16 ans, tu pouvais que créer une junior association et pas créer une association normale. Et donc, là, j'ai collé mes bulletins de notes sur les statuts de l'association. Et quand ma mère a signé mon bulletin de seconde, elle a signé les statuts de l'association. Et donc, du coup, j'ai pu avoir sa signature, ce que j'ai scanné et que j'ai répliqué partout.
Donc, tu l'as pas dit ?
Au départ, je lui ai pas dit non. Ouais. C'était un peu la surprise. Pour la petite anecdote, ma mère est avocate. Et du coup, pendant les 6 premiers mois d'Aïda, on m'appelait Maître Moukanas. Donc c'était assez marrant. Et j'ai dit à mes parents, quelques mois après, j'ai fait faire des t-shirts avec marqué Association Aïda dessus. Je les ai emballés, je les ai mis sous le sapin. Et c'est comme ça que j'ai raconté à toute ma famille ce qu'on allait faire.
Ok. Donc ça, c'est la première barrière administrative. Ouais. Quelles ont été les autres ? C'est-à-dire que... À quel moment, si t'as la chrono, à quel moment t'as l'idée ? À quel moment les statuts sont créés ? Et à quel moment, peut-être, tu recrutes ton premier bénévole ?
Alors, j'ai l'idée en octobre 2014. On crée l'association en décembre 2014. C'est approuvé en janvier 2015. Et les premiers bénévoles, c'était tout de suite. Parce que c'était juste... pour le coup, c'était pas du tout un frein au départ. Les jeunes avaient hyper envie de s'engager dans ma classe. Et très très vite, on était plusieurs dizaines et très rapidement une centaine. C'est vrai que c'est allé super vite au départ. Alors on faisait pas grand chose parce que ça a été la deuxième barrière justement. C'est quand on contactait des hôpitaux en leur disant qu'on aimerait beaucoup les aider ou des centres de recherche en leur disant qu'on aimerait beaucoup leur faire un don. Bah à chaque fois, on nous répondait qu'on était trop jeune et que c'était pas sûr de signer un partenariat avec nous ou que c'était pas possible. Et donc ça a vraiment été la deuxième barrière, le fait de pas forcément être pris au sérieux dans ce qu'on pouvait faire alors qu'on était beaucoup, on était hyper motivés. Et nous, on avait juste envie d'aider, quoi.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu vois que les gens sont pas forcément prêts à entendre, à soutenir, parce que c'est vrai qu'une association sans action, ça a moins de poids. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez été accepté dans les hôpitaux ?
Nous, notre premier réflexe a été de dire on arrête. En février 2015, ça faisait 3 mois qu'on essayait de rentrer dans les hôpitaux, on n'y arrivait pas. Et du coup, avec mes potes de seconde à cette époque-là, on s'est dit ok, on arrête. En plus de ça, on avait commandé des t-shirts. Donc du coup, on avait un compte bancaire à découvert à la banque. On avait 15 ans, tous nos parents n'étaient pas au courant forcément de ce qu'on faisait. On se maquillait quand on allait en rendez-vous à l'hôpital, on se maquillait pour avoir l'air un peu plus vieux et vraiment, on avait l'air de rien. Et on s'est dit ok, nous on a juste envie d'être utile. Si on ne l'est pas, je propose qu'on arrête et voilà. Et donc on s'est donné les vacances de février. En se disant que on allait, avant de dire à nos parents ce qu'on avait fait, on allait collecter les fonds qu'on avait dépensés pour pouvoir les remettre à la banque et fermer le truc en étant à l'équilibre. Et donc on s'était dit qu'on ferait des ventes de gâteaux un peu partout.
Et quand tu dis « on », parce que tu disais « on a créé les statuts », est-ce que c'était toi et quelqu'un d'autre ou c'était toi ? Il y a juste eu des bénévoles qui t'ont rejoint après.
Au départ, j'étais toute seule, j'en avais parlé à ma tante. Et après, il y a très vite plein de gens dans ma classe et dans mon lycée qui ont rejoint.
Donc là, les décisions se prenaient
ensemble. Ouais, okay. Et donc, on est allé faire des ventes de gâteaux. Moi, nous, on était allé au ski avec mes parents. Donc, on a fait des ventes de gâteaux sur les pistes de ski.
J'aime trop les ventes de gâteaux. Ça m'appelle trop de souvenirs. Ouais.
Moi, le problème, c'est que je cuisine très mal et que je skie très mal. Donc, je te laisse imaginer le combo ventes de gâteaux sur les pistes de ski. C'était sympa. Les gens, je pense, nous jetaient de l'argent en mode les pauvres, ils sont en jean sur les pistes avec des cupcakes. Mais finalement, on est revenu le lundi de la rentrée. Notre prof de maths s'était pété le pied au ski. Et donc, notre première heure de cours, c'était une heure d'études. Et donc là, on arrivait avec nos pièces et nos billets. On les a mis sur la table de la salle d'études. Et on a commencé à compter. On s'est rendu compte qu'on avait non seulement collecté suffisamment, mais même collecté plus. Et là, je ne sais pas comment était l'étude, toi, quand tu étais au lycée, mais nous, c'était toute promo confondue. Il y a un jeune qui était en cinquième qui s'est levé et qui a dit mais vous êtes trop bête, vous êtes trop bête d'arrêter parce que pour une fois que notre génération, elle bouge et pour une fois que les jeunes bougent, c'est juste incroyable. Moi, si vous continuez, je viens avec vous. Et en fait, il avait raison, ce garçon-là, parce que c'est vrai que ce qui était incroyable, on ne s'en rendait pas compte, c'était qu'on était plein de jeunes à être hyper motivés dans un monde où de l'engagement, où il n'y a pas tant de jeunes que ça, ou en tout cas, à cette époque-là, il n'y avait pas tant de jeunes que ça. Et donc, ça a un peu été notre déclic pour continuer. On a vachement raconté notre histoire sur les réseaux sociaux. Ça a été un vrai vecteur au départ. Et en fait, il y avait des parents d'enfants et de jeunes qui avaient un cancer qui nous contactaient en nous disant bah voilà, il est entouré d'adultes toute la journée, ça lui ferait trop de bien de rencontrer des jeunes de son âge. Et là on a fait exactement tout ce qu'on nous a toujours appris à pas faire, c'est-à-dire parler à des inconnus sur les réseaux sociaux et aller chez des inconnus ou
voilà. Ah ouais ouais, vous avez écrit, vous êtes allé du coup directement chez eux parce que les hôpitaux fermaient les portes.
Exactement.
OK.
On est allé direct chez eux et là il y a des moments juste fous qui se sont passés d'échanges et d'interactions où c'était pas le jeune qui était malade et le jeune qui était pas malade, mais on était juste entre jeunes.
Mmh.
Et c'était assez fort. Et donc ça a démarré comme ça. Et puis très rapidement, on a aidé à peu près 70 familles dans toute la France qu'on allait soit en Blablacar, soit des parents qui nous déposaient, soit soutenir un peu partout en France. À la fin de l'année, on a eu un reportage sur TF1 qui racontait un peu notre histoire et ce qu'on faisait, qui nous a contactés comme ça.
C'est eux qui vous ont envoyé un mail, ouais. En mode « Yo, on veut vous partager dans un reportage ».
Exactement.
C'est ouf.
Et du coup, ça a lancé pas mal de choses. Et à partir de ce moment-là, on a pu avoir des échanges avec des hôpitaux et commencer à interagir.
Ok. Et ça, c'était à la fin 2015 ?
C'était fin 2015, début 2016, ouais.
Ouais, ok. Donc là, vous êtes combien ? Une centaine de jeunes ?
Ouais, 100, 150.
Ouais. Ouais. Vous commencez à avoir des fonds ou pas ? Parce que je crois qu'on l'a même pas dit au début, et tu l'as pas dit du coup quand t'as dit que tu présidais, enfin que t'avais fondé l'association AIDA. C'est qu'aujourd'hui, attends, c'est 1200 bénévoles ?
Aujourd'hui, on a 2500 bénévoles.
Ah non, 2500 bénévoles.
On mobilise 80 000 jeunes en France dans les écoles, ouais, chaque année.
Et 21 salariés, c'est ça ?
On a 21 personnes qui travaillent chez AIDA.
Ouais, donc c'est quand même devenu une structure vraiment assez incroyable. Ça se passe comment, ouais, les années suivantes ? Comment est-ce que toi, t'arrives à te professionnaliser ? Parce que je me dis, ça doit être vraiment particulier parce que c'est pas une entreprise, c'est une asso, donc en plus, tu donnes de ton temps, mais en veux-tu, en voilà. Tu gagnes pas d'argent pour financer le tout, même si, bon, tu vas nous expliquer qu'après, au final, c'est possible. Mais ouais, comment tu arrives à un peu structurer l'asso à ses débuts ?
Bah déjà, je crois que cette première année d'échec a été vachement structurante, finalement. Ce qui était génial, par exemple, c'était que nous, ce qu'on avait en tête au départ, c'était de se dire qu'on allait collecter des fonds et les reverser. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout notre valeur ajoutée. Que, par exemple, intervenir au domicile des jeunes, ce qu'on faisait avant de pouvoir signer partenariat avec les hôpitaux, c'était hyper utile et ce n'était pas fait du tout. On s'est rendu compte que les 15-25 ans, c'était aussi des populations hyper isolées, alors que nous, on avait peut-être soit des plus jeunes, soit des plus âgés en tête au départ. Enfin, ça nous a appris vraiment beaucoup de choses. Et en fait, on s'est vraiment confrontés au dur directement. Et on est vraiment rentré dans la vie de ces 70 familles qu'on a accompagnées en essayant de vraiment comprendre et à être vraiment en immersion dans leur quotidien. Et ça nous a permis, avant de nous structurer en termes d'organisation, de structurer nos missions. Et donc, on a très vite eu trois missions. La première, c'est ce qu'on appelle l'aide aux patients. Donc, on intervient tous les jours partout en France auprès de jeunes, à la fois dans les hôpitaux et à la fois au domicile. Donc, ça, c'est resté. Donc on intervient dans plus de 50 hôpitaux aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Notre deuxième mission, c'est de soutenir l'engagement de la jeunesse dans les sciences. Et on a vraiment fait de cette jeunesse qui était un frein au départ une force aujourd'hui.
Ouais.
En se disant, on n'a pas le même âge que ceux qui s'engagent pour cette cause-là, mais chez nous, c'est une vraie force et ça apporte une fraîcheur à la cause. Et notre troisième mission, c'est mobiliser des jeunes un peu partout en France. Et on en mobilise 80 000 aujourd'hui à cette question de l'engagement et au fait que finalement, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Donc en fait, je crois que cette première année, elle a été hyper formatrice parce qu'elle nous a permis de construire nos trois missions. Ça a été la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer aussi. Et que c'est pas toujours évident, surtout dans cet écosystème. Mais moi, j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée dès le départ par mes potes d'abord au lycée, puis par des jeunes que je connaissais pas, qui un peu partout en France ont dit « moi, j'aimerais bien faire AIDA dans ma ville ». Et ça a aussi été vecteur de plein de choses et ça a permis de construire, plein de choses. Et après, je pense que le rêve a aussi vachement alimenté les trucs. C'est que je crois qu'il n'y a aucun moment où on s'est arrêté de rêver. Quand on avait 15 ans, on pensait qu'on avait créé l'UNICEF. et je pense que... Alors, évidemment, tu prends de l'humilité à l'hôpital et quand tu te confrontes à ce milieu-là, mais il n'y a pas un moment où on arrête de rêver pour la cause et il n'y a pas un moment où on arrête de rêver pour les jeunes à l'hôpital. Et je pense que ça a été aussi très structurant et très formateur pour pouvoir accueillir... pour pouvoir réaliser ce rêve-là, il faut qu'on structure et il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir le faire.
Et est-ce que tu t'es dit à un moment, il faut quand même qu'on s'entoure de quelqu'un de plus âgé pour je sais pas, mener le bateau, pour piloter ? Parce que moi, là, spontanément, je me dis, mais à quel point ça doit être difficile à 15 ans de non seulement gérer une asso, mais en plus manager, entre guillemets, des bénévoles, parce que bah, t'es en relation avec... Enfin, pour avoir été dans des assos aussi, c'est vrai qu'il y a vachement de gens avec qui t'es en relation, faut centraliser les infos, il faut donner des directives, entre guillemets, si en plus il y en a qui sont reproduits dans leur ville, ouais. Bah, t'es vite sous l'eau, quoi.
Ouais, ouais, c'est sûr. En fait, c'est marrant, la question de l'âge, parce que chez nous, ça n'a jamais été une question. C'est-à-dire qu'au départ, on s'engageait et on avait l'impression que c'était normal. Alors que tous les gens autour nous disaient « mais vous êtes hyper jeune, vous ne vous rendez pas compte ». Nous, c'était vraiment hyper spontané. Et à aucun moment, on s'est dit « on est plus jeune que la moyenne » ou à aucun moment, on s'est dit « on est une asso de jeunes et les autres, c'est des assos de vieux ou des assos d'adultes ou, ». Ou voilà. Et donc, naturellement, il y a eu plein de jeunes qui sont venus aider et il y a aussi des plus âgés qui sont venus aider. Et il y a aussi eu un partage d'expérience et un truc un peu intergé qui s'est fait, mais hyper naturellement, vraiment sans qu'on s'en rende compte. Et donc, évidemment... Moi, je crois beaucoup au mentorat et je crois beaucoup que j'ai des mentors chez des plus jeunes que moi et j'ai des mentors chez des plus âgés que moi qui m'inspirent et qui m'ont aussi aidé à manager cette équipe-là, de un. Et de deux, très vite, Aïda, c'est plus devenu que mon histoire, c'est devenu l'histoire de plein d'autres gens. Mmh. Et ça, je crois que c'est super quand on monte un projet parce que t'as plein d'autres gens sur qui tu peux te reposer et qui croient au truc autant que toi et qui auraient pu très bien être à ma place aujourd'hui en face de toi, quoi.
Ouais, ouais, totalement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de les trouver, de trouver des personnes qui croient autant au projet que toi. Et après, ce que je trouve très cool aussi avec une asso, c'est qu'entre guillemets, ça ne peut pas échouer. Alors, je dis ça peut-être avec mon regard d'entrepreneur, mais en fait, tu te dis, bah, dans l'absolu, il y aura toujours besoin d'aide. Tu vois, c'est pas comme si tu devais valider un concept, valider une idée, trouver le product market fit. Enfin, bien sûr, il y a des façons de faire qui vont faire que ça perdure ou pas. Mais il y a ce côté où, bah, coûte que coûte, vous allez le faire exister, vu que de toute façon, c'est pour aider des gens, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Après, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que si jamais on trouve pas de modèle, on s'essouffle et on s'épuise soi-même. Et je crois que ce qui est difficile... c'est aussi trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie d'engagé, parce que finalement, c'est une vie où il n'y a plus forcément de limites. C'est la vie de l'entrepreneur où il n'y a plus forcément de limites entre ce qui est ta vie personnelle, ce qui est ta vie d'engagé, ce qui est ta vie d'étudiant aussi. Et donc, je pense que ça, c'est quand même un vecteur qui peut le faire échouer, parce que si toi, tu t'essouffles et si tu deviens aigri, que tu te sens victime du truc que tu as monté, etc., c'est un truc qui peut complètement le faire retomber. Et je pense qu'il y a un deuxième... facteur clé de succès, c'est le fait que le truc va vraiment avoir de l'impact, que tu vas pas juste créer un truc qui va à un instant T peut-être changer la vie des gens, mais en fait les enfermer dans un cycle où ils vont être dépendants de ton aide, mais que tu vas vraiment avoir de l'impact dans le sens où tu vas les rendre autonomes, tu vas leur donner le coup de pouce qu'il faut pour que ils soient pour respecter leur dignité, pour respecter la personne qu'ils sont. Et je pense que ça, c'est absolument essentiel dans ce qu'on construit.
Et comment, toi, t'as réussi, pour revenir au premier point, à trouver un équilibre entre ta vie d'engagé, ta vie d'étudiante, ta vie perso, si tu l'as trouvé ? Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, j'imagine même pas à quel point on doit pas compter ses heures. Et je me dis, bon, non seulement quand t'es entrepreneur... Enfin, dans mon cas, j'ai toujours un truc à faire, donc je pourrais clairement passer 24 heures sur 24 à bosser, j'en suis pas loin, mais j'essaye de m'améliorer. Mais je me dis, au pire, moi, de toute façon, vraiment, typiquement, dans les moments où, tu vois, typique là, ce soir, je vais sortir une vidéo, je peux pas parce que finalement, le montage n'est pas fini. Et typique, avant, je me battais vraiment, enfin, je m'auto-flagellais, tu vois, et maintenant, je me dis, il y a pas mort d'homme. Mais vous, dans votre cas, il peut y avoir mort d'homme. Alors, pas de votre faute, bien sûr, pas de votre fait. Mais je me dis, tu dois tellement être porté par la volonté de sauver, aider le plus de personnes possible. Comment tu fais pour ne pas consacrer chaque minute de ton temps à cette fin ?
Déjà, tu t'entoures bien. C'est la bonne chose. Et tu vois ça comme, pas comme un sprint, mais comme une course d'endurance. Et je crois que quelqu'un m'a dit un jour que le plus bel engagement, c'était celui de l'endurance. Et je crois qu'il avait vraiment raison. On aurait pu faire un one-shot et le faire 2 ans full, en dormant plus la nuit. Et voilà, parce que bien sûr que, surtout dans le contexte dans lequel on vit maintenant, tu as envie de passer tes journées à l'hôpital et d'être auprès des jeunes, parce que la période qu'on traverse particulièrement a encore plus isolé tous les jeunes qu'on accompagne. Mais je pense que tu as aussi cette idée en tête que si toi, tu trouves pas cet équilibre, si toi, tu l'as pas, tu peux pas le donner à d'autres. Et ça, ça a été hyper formateur. Alors... bien sûr, je te dis ça, et je pense que tous les gens qui me connaissent, qui écoutent ce truc-là, vont se taper une barre, vont me le ressortir, et vont en faire un petit message audio qu'ils m'enverront toutes les semaines, je pense. C'est hyper dur de trouver un équilibre. C'est hyper dur. Et en même temps, c'est un chemin de vie aussi, et c'est un objectif au quotidien. On peut pas aider les autres si nous-mêmes on va pas bien.
Tu t'es améliorée ou pas à ce niveau-là, au fil des années, genre comment t'étais au début d'Aïda et comment t'es aujourd'hui?
Au début d'Aïda, je ne parlais que d'Aïda. Là, c'est plus cloisonné déjà. Et ensuite, j'arrive à avoir, j'essaye en tout cas d'avoir des temps pour moi. J'essaye d'avoir des amitiés en dehors aussi. Et je crois que c'est assez essentiel. J'ai vu trop de gens faire des burn-out dans ce monde du social. Et j'ai vu trop de gens pas aller bien et essayer d'aider les autres en allant eux-mêmes pas bien. Mmh. Que si tu veux, c'est un peu le deal avec moi-même. C'est qu'il faut aller bien pour pouvoir aider les autres. Ou en tout cas, il faut avoir une forme d'équilibre. Mmh. Et c'est un peu le deal intérieur avec moi, quoi.
Ouais. Et du coup, ce deal, il prend quelle forme? Est-ce que tu te dis, je dois terminer à telle heure? Est-ce que, je sais pas, t'as un rituel ou tu vois, des habitudes qui font que tu veilles à cet équilibre? Parce que ce que je trouve dur, c'est que moi, je me le dis. Je suis à fond pendant une semaine. Et puis après, une idée arrivée. Et à chaque fois que je me dis, je vais me calmer un peu, mais jamais, en fait, tu vois.
Ouais, c'est pas facile parce que moi aussi je me le dis souvent et puis ça finit toujours par retomber. C'est comme le régime, les trucs yo-yo là quand tu fais
tu fais des pseudo régimes
que je fais plus maintenant parce que ça, je trouve que ça sert pas à grand chose. Il y a des petits trucs. Moi j'ai une app de méditation sur mon téléphone et je sais que quand je suis à un moment où bah voilà mon corps me dit t'es beaucoup trop tendu, bah en fait je sais que si je prends 5 minutes pour faire 5 minutes de méditation sur ce truc là. Bah, en fait, je vais être 10 fois plus productive après. T'es aussi dans le lâcher-prise. Covid a complètement décloisonné. Avant, on avait un portable pro, on avait un portable perso. Le portable pro, on le laissait au bureau. Le portable perso, on le ramenait avec nous. Maintenant, on a les deux avec nous tout le temps en permanence. Donc, ça t'oblige aussi à parfois l'éteindre. En culpabilisant, bien sûr, parce que tu te dis si quelqu'un m'appelle après 21h ou si quelqu'un... donc, t'as aussi le fait d'avoir deux portables. Et je crois que... Le cœur de ce qu'on apprend aussi aux bénévoles, c'est que c'est un peu les Hannah Montana de l'engagement ou les Batman de l'engagement, c'est-à-dire qu'ils sont Miley Cyrus le jour et Hannah Montana la nuit, quoi, après les cours. Et ça, c'est assez important dans ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire qu'ils ont ce moment où ils sont bénévoles Aïda et ils sont à l'hôpital, mais au moment où ils enlèvent leur t-shirt d'engagé, bah, en fait, ils sont lycéens ou ils sont à l'université ou ils sont au collège, peu importe. Mais il y a vraiment cette cloison qu'on essaye de construire dans leur vie et qu'on s'oblige aussi à construire dans la nôtre parce que, et ça a été un déclic vraiment pour moi, je me suis rendu compte que moins j'avais une vie saine et équilibrée, moins mon équipe en avait une et moins les bénévoles qu'on engageait en avaient une. Et que chaque chose que je faisais dans ma vie et chaque impact que je pouvais avoir dans ma vie qui pouvait être négatif, bah en fait, ça rayonnait sur toute l'équipe. Si j'envoyais des mails à 2h du matin un samedi soir, bah en fait, l'équipe recevait des mails à 2h du matin un samedi soir et donc avait envie de me répondre un dimanche matin et donc de travailler dimanche matin, etc. Et je pense que quand tu te rends compte que cette responsabilité, elle te dépasse toi, mais qu'elle engage toute une équipe et qu'elle engage des milliers de jeunes, bah... Je pense que tu transformes aussi les choses et t'apprends un peu plus à lâcher prise, même si c'est pas évident parce que c'est pas ta nature et ton caractère.
Ouais. Et c'est pas trop difficile d'endosser cette place de leader quand peut-être t'as quand même. Parce que je suis la première à dire que pour moi l'âge n'a pas de sens parce que j'ai pas l'impression d'être jeune. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est. De toute façon, je connais pas d'autres réalités, donc je vois pas pourquoi je me limiterais en me disant je suis jeune. Mais je pense qu'il y a. Enfin, je manage beaucoup moins de gens que toi, tu vois. Je me dis, il y a quand même ce truc, à un moment, je pense, ça pop à peu près quand même dans ma tête, en mode problème de légitimité, pas assez d'expérience, pas forcément les épaules, tu vois, pour manager 2500 personnes. Donc, ouais, est-ce que toi, t'as dû, je sais pas, comment t'as assumé, en fait, cette position de leader?
C'est une très bonne question, parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'encore une fois, c'est un truc qui se fait vraiment sur le long terme. Il y a eu plusieurs étapes, je crois. Le premier déclic, ça a été quand j'ai eu quelqu'un qui est venu travailler chez Aïda et qui avait 50 ans. Que je me suis assise en face de cette personne et que je l'ai regardée et que je me suis dit « Ok, alors c'est moi sa chef ». Et que j'étais hyper gênée parce qu'elle avait beaucoup plus roulé sa bosse que moi et qu'elle avait beaucoup plus d'expérience de vie que moi. Et qu'en même temps, elle m'a regardée avec une bienveillance et avec une envie de se mettre au service de la cause qui m'a juste donné des ailes. Et je pense que la première clé, c'est d'être entourée de gens bienveillants. Bien sûr, il y en a eu qui n'ont pas été bienveillants. Au tout départ, quand je finançais des trucs dans des services et que j'arrivais, parfois le chef de service, en sachant pas forcément qui j'étais, en ayant juste parlé au téléphone ou par mail, me demandait d'aller faire le café quand j'arrivais. Il pensait que j'étais en stage dans son service. Et donc, tu as eu des moments, bien sûr, où... Où
tes gifles.
Où tu te prends une petite gifle dans la tête et en fait t'es hyper gênée, donc du coup tu vas faire le café gentiment et puis tu lui ramènes. Mais t'as aussi des gens hyper bienveillants qui sont capables de dire bah voilà, moi j'ai beaucoup de choses à transmettre parce que j'ai bien vécu aussi avant et en même temps j'ai beaucoup de choses à apprendre de cette audace, de cette jeunesse. Et mon deuxième déclic, ça a été je déjeunais avec un ami et il m'a dit ne pas assumer le pouvoir et faire du pouvoir un gros mot, c'est très dangereux. Et là, je pense qu'il a totalement raison, parce que ne pas assumer le pouvoir et le fuir, et ne pas assumer que des... Mais le pouvoir au sens... quand tu prends des décisions, quand tu as des actes auprès d'une communauté de personnes, ben en fait, ça peut avoir une incidence sur une grande communauté de personnes. Ne pas savoir ça, ne pas l'assumer, ça peut être hyper dangereux et ça peut faire très mal à beaucoup de gens. Et en fait, il avait totalement raison. Et je crois que ça a été un deuxième déclic aussi pour l'assumer. Alors, évidemment que tu as des moments où tu doutes. Évidemment que tu as des moments où tu dis mais merde, est-ce que il faudrait pas que j'aille faire des stages comme tous les jeunes de mon âge aussi? Est-ce qu'il faudrait pas que il y a des moments où tu te dis mais c'est quoi ma vie par rapport à celle d'autres jeunes de ton âge et de mon âge, et c'est bien sûr que tu doutes. Puis il y a d'autres moments comme la crise Covid qui te rappelle aussi à quel point la structure hyper agile qu'on a créée et la proximité qu'on a sur le terrain nous a permis de faire face aussi à l'hôpital et qui te conforte dans le fait que tu es aussi sur la bonne voie et que tu te sens à ta place.
Ouais. Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à progresser justement en tant que leader, que manager, tu te rends compte que c'est en faisant peut-être certaines pratiques, en lisant certaines choses, que aujourd'hui tu arrives à être à l'aise dans cette position?
Déjà, je me suis plantée. Je me suis plantée des milliers et des milliers et des milliers de fois.
T'as un exemple en tête, peut-être, de plantage?
J'ai un exemple de plantage, j'en ai,
ou
j'en
de
ai plein.
De pseudo-échecs, tu vois, qui sont juste au final des leçons, des apprentissages.
La première année, moi, c'est hyper formateur pour moi. Quand j'arrivais dans les hôpitaux en disant « on va apporter quelque chose, on est jeune, on parle le même langage », là où les médecins avaient raison sur un point, c'est que si on n'était pas formé, on ne pouvait pas.
Ouais.
Et ça, typiquement, depuis, on a mis en place une formation. Il y a plein d'assos qui, avant d'intervenir à l'hôpital, viennent se faire former chez AIDA aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'assez structurant aujourd'hui dans ce qu'on fait. Donc je me suis plantée plein de fois. Il y a des moments où j'ai fait des recrutements qui n'étaient pas les bons. Il y a des moments où j'ai mis des gens à des postes qui n'étaient pas les bons. Je me suis plantée vraiment beaucoup de fois. Où j'ai imaginé des projets qui étaient trop ambitieux dans le timing aussi. Donc bien sûr.
Et ça, tu le vis pas trop mal? Moi, je sais que j'ai énormément de mal à accepter qu'un truc se réalise pas comme je l'imaginais ou pas du tout. Tu vois, ce côté, alors que c'est la vie en fait, tu testes des trucs, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas. J'ai vachement de mal à accepter.
Au tout départ, ouais. Au tout départ, c'était vraiment un truc qui pouvait me faire donner l'envie de mettre sous la couette tout le week-end la tête dans Netflix et avec un pot de glace, sans cliché du tout. Je crois que ça fait 6 ans maintenant, et je crois que 6 ans qu'on passe en contact de jeunes qui ont un cancer et à l'hôpital, c'est équivalent à 12-15 ans en termes de formation, parce que tu te prends des claques tous les jours et tu as des leçons de vie tous les jours. Et je pense que je me lève tous les matins avec cette idée que, ben en fait, on fait de son mieux. Et que chacun fait de son mieux, pas que moi. Tout le monde fait de son mieux. Et bien sûr, il y a des moments où j'abuse et qu'il y a des gens qui abusent, mais chacun fait de son mieux. Et je trouve que ça t'aide à accueillir les choses avec beaucoup plus de bienveillance avec les autres, envers les autres et envers toi-même aussi.
Ouais.
Et ça m'a vachement aidée à accepter l'échec et à en faire quelque chose qui m'aidait à assumer le fait que oui, j'étais leader à 20 ans, quoi.
Ouais. Et du coup, je t'ai coupé, hein, c'est un peu le propre de ce podcast qui est une conversation. non, parce que je sais que parfois c'est pris comme, je sais pas, du non-intérêt, alors qu'au contraire, c'est que je me dis, oh là là, il y a un truc trop intéressant, faut absolument que je creuse.
Non, mais vas-y.
Parce que du coup, on parlait de la position de leader et de ce qui t'avait peut-être aidé aujourd'hui à assumer cette position. Et donc, tu me disais, les échecs que tu as pu prendre, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à t'améliorer, quoi, à progresser, parce que c'est pas une position facile?
Paradoxalement, le regard des autres aussi. J'ai eu beaucoup de gens bienveillants sur ma route, j'en ai eu beaucoup d'un peu moins bienveillants aussi, mais j'en ai eu beaucoup de très bienveillants. Et je pense que le regard des autres, ça m'a beaucoup aidée. Et après, je crois qu'il y a la cause aussi. On est au service d'une cause qui nous dépasse. Et je crois qu'à partir du moment où on est au service d'une cause qui nous dépasse, un leader, c'est pas quelqu'un qui tire les autres vers cette cause, mais c'est quelqu'un qui se met au service et qui se met à genoux devant son équipe pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même pour la cause. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois au quotidien. Et c'est marrant, un jour, on a tous des suivis psy à côté avec ce qu'on fait. Moi, c'est de la sophro, et la sophro me disait... voilà, dessine-toi face à ton engagement. Et je me suis spontanément dessinée à genoux. Et c'est vrai que c'est comme ça que je vis cette position de leader. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un leader, c'est quelqu'un de debout, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de se planter, qui n'a pas le droit d'être vulnérable. Ben moi, je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit être fort, mais c'est quelqu'un qui doit aussi se mettre au service de son équipe. Et je crois que c'est la cause aussi qui t'aide à assumer ce fait d'être leader.
Ouais, bah, justement, ça me fait dire... parce que je sais qu'on en a parlé brièvement quand on s'était vu, le côté après Aïda, est-ce que tu te vois ailleurs ou pas ? Bah, du coup, est-ce que tu arriverais, si jamais ce n'est pas dans le milieu associatif, à avoir cette même cause qui est plus forte que tout, qui peut t'aider à surpasser tous les échecs, tous les obstacles, et ouais, être vraiment en mode, bon, bah, de toute façon, je ne le fais pas pour moi, mais pour la cause ?
C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas exactement ce que je veux faire après Aïda. Je ne sais pas, d'ailleurs, en termes de temporalité, quand sera après Aïda. Ce que je sais, c'est que je veux être engagée... Enfin, ma boussole, c'est l'engagement.
Ouais.
Mais que je sais aussi qu'on peut être engagé dans son métier, qui n'est pas forcément de l'associatif. Qu'on peut être engagé en travaillant dans une association aussi. On peut être engagé en étant aussi au service de l'État. De façon générale, c'est peut-être pas l'endroit où j'ai envie d'aller particulièrement, mais il y a plein de formes d'engagement.
Ouais.
Et je pense que je me laisserai guider par cet engagement. J'ai la chance... Quand on construit un projet à 14 ans, il y a le biais que tu construis un truc avant de te construire toi-même.
Ouais.
Et en même temps, à un moment, tu te rends compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que tu as construit et ce que tu es. C'est-à-dire que tu es une enfant qui gère un gros truc. Et donc, du coup, tu t'apprends à te construire hyper vite et tu travailles aussi beaucoup sur toi parce que le succès de ton projet dépend du travail que tu fais sur toi aussi. Et j'ai la chance, et Aïda m'a beaucoup fait grandir, et je crois que je me connais chaque jour un peu plus. Et je sais que l'engagement, c'est ma boussole et que je la suivrai quoi qu'il arrive, peu importe où ce sera.
Ouais, parce que qu'est-ce qui te ferait, en fait, tu penses, pas arrêter, mais en tout cas changer de voie ou découvrir de nouveaux horizons? C'est difficile, je pense, quand on est attaché de fou à un truc qu'on a créé et d'un autre côté, on a peut-être envie de voir autre chose.
C'est difficile, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que quand tu crées un projet, le plus beau cadeau que tu puisses avoir, c'est qu'il fonctionne sans toi un jour. Parce que ça veut dire que tu l'as bien créé, que tu ne l'as pas rendu dépendant de toi. C'est très difficile, mais c'est absolument nécessaire. Le facteur pour moi qui est la clé de tout, c'est de me sentir à ma place. Et je sais que je me sens à ma place quand je suis en train de construire. Le jour où je serai plus en train de construire, le jour où le truc sera à la vitesse de croisière, le jour où voilà, je sens que j'aurai à rendre le tablier et j'aurai à le passer à quelqu'un d'autre parce que je serai plus à ma place.
Mais donc tant que ça croît et tant que ça marche bien, tu préfères rester et...
Tant que je construis.
Ouais.
Ça peut croître sans construire.
Ouais,
mais tant que je construis, ouais. Je me sens à ma place.
Et là, pour parler un peu de ta scolarité en parallèle, qu'est-ce qui a fait déjà que tu as voulu faire Sciences Po? On dirait des petites questions de l'oral, tu te rappelles?
Super, petit oral d'entrée à Sciences Po.
Non, mais parce que
Sciences
je me dis pourquoi...
Sciences Po est une école de référence, ouverte sur le monde.
Pluridisciplinaire.
Pluridisciplinaire. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui m'a attirée.
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais faire de longues études, alors que j'ai déjà une asso qui marche bien, que l'associatif n'est pas forcément... et pas forcément associé avec le service public. Après, on sait toutes les deux que c'est pas que ça à Sciences Po, mais que c'est quand même ce qui peut faire, ce qui peut donner envie d'y être. Et comment t'as géré un peu ces 5 années en parallèle de l'asso qui faisait que croître? C'est fou, j'ai vraiment l'impression parfois de me poser les questions que les gens me posent, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir tes réponses là-dessus parce que c'est pas facile.
Déjà, pourquoi Sciences Po je pense mes parents aussi. Premier préalable, c'est quand ta fille a 17 ans, que le truc grossit vachement, qu'elle commence à recruter ses premiers salariés, que voilà, et que tu flippes quand t'es parent. Je pense que inconsciemment, c'est jamais une discussion que j'ai eue avec eux, je pense qu'inconsciemment, il y avait un espèce de truc de je rassure. de je rentre dans la convention, de je fais des études.
Ouais.
Et ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il ne faut pas sous-estimer le regard aussi que la société porte sur ce que tu fais et sur le fait d'entreprendre. Et je crois que moi, le déclic que j'ai eu un jour, c'est il y a la société qui te voit à un endroit, puis il y a là où tu as envie d'être, et il faut accepter que les deux ne soient pas au même endroit. Et donc, il y a eu ce premier truc. Et puis, il y a eu un deuxième de me dire que ce serait aussi des clés que je pourrais mettre au service de la cause. Et qu'aujourd'hui... on a trop tendance à voir en France le monde associatif comme étant un truc qui ne doit pas se professionnaliser. Qui doit, bien sûr qu'il y a ce côté spontané, il y a ce côté engagement, il y a ce côté évidemment bénévole et des milliers d'heures que tu donnes bénévolement. Mais il y a aussi ce côté, si tu ne structures pas les choses, si tu ne trouves pas de modèle à l'intérieur de ce que tu fais, bah, en fait, quand tu ne seras plus là, le truc il va s'effondrer et tu ne pourras plus aider les jeunes. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est venu rentrer en jeu. Et comment est-ce que tu fais pour gérer les deux en parallèle? Un, tu n'es pas seul. Deux, tu ne dors pas beaucoup. Et trois, tu te dis constamment que ça va passer.
Ça va le faire. Parce qu'il n'y a pas d'emploi du temps aménagé, quoi. Ça, non. Pour le coup, je peux vous dire, on n'a eu aucun passe-droit. J'ai essayé jusqu'au bout, mais non. Donc, c'est vrai que cumuler tes heures de cours par semaine, plus ton taf pour tes rendus, plus tes examens, plus Aïda. T'avais combien de salariés quand t'es rentrée en études supérieures?
Quand je suis rentrée à Sciences Po, j'en avais pas beaucoup. Je devais en avoir trois.
Ouais. Et environ, quoi, 800-900 bénévoles.
Et ouais, 1000 bénévoles à peu près.
Ouais. Ah, putain, ça devait vraiment, vraiment pas être facile. Franchement, ouais, je me dis, c'est fou à quel point, au final, la passion, tu vois, la détermination, juste le fait de, peut-être, tu t'es dit, y a pas de sujet. Tu vois, le fait, parce que là, je te pose la question vraiment de l'extérieur, mais dans ma tête, par exemple, moi, il n'y a pas de sujet aujourd'hui, tu vois.
Non, il n'y a pas de sujet.
J'ai envie de faire plein de trucs, parce que plein de trucs, tu vois.
J'avais répondu une fois, j'avais traumatisé, on fait des sensibilisations dans les écoles, j'avais traumatisé un jeune de 3e qui m'avait dit, comment tu fais pour gérer Sciences Po et Aïda en parallèle. Je lui avais dit, est-ce que tu fais un sport? Il m'avait dit du tennis. Je lui ai dit, est-ce que je te demande comment tu fais du tennis et les cours à côté?
Eh bien, alors non, arrête de me poser la question.
Non, mais c'est ça. C'est aussi une question de passion. Alors évidemment. C'est pas tout à fait faire du tennis ou voilà, t'as une responsabilité aussi, mais je pense que c'est une question de passionné, et je pense que quelqu'un qui fait du sport à côté de ses études et qui adore ça, et qui est passionné par ça, quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui fait de l'art, c'est aussi une question qui se pose.
Ouais.
Là, il y a une responsabilité qui est d'avoir des vies aussi entre les mains d'une certaine façon, mais finalement... Ce qui me porte et ce qui m'oblige, c'est aussi la passion.
Quand tu parlais justement du fait qu'il faut que ça structure pour qu'ensuite ça puisse se pérenniser, je sais qu'aujourd'hui, du coup, Aïda est financée par des entreprises et que c'est un vrai sujet, comme tu dis, pour que le modèle soit pérenne et que vous puissiez continuer à construire. À partir de quand tu te dis qu'il te faut des financements? Quels sont les différents moyens de financer aussi une association? Et comment tu arrives à obtenir ces investissements, enfin ces fonds, parce que j'imagine que c'est pas facile, quoi, d'aller toquer à la porte. Les entreprises sont sollicitées par beaucoup d'associations. Donc ouais, dis-nous un peu le processus, comment ça s'est fait.
Alors il y a plusieurs questions dans ta question. La première, c'est quand est-ce qu'on a besoin de fonds? On a besoin de fonds quand on a une idée, donc assez tôt.
Ouais.
Et au tout départ, nous. Peut-être parce qu'on ne se sentait pas légitime, mais aussi parce qu'on avait envie d'être indépendant et de ne pas dépendre de quoi que ce soit. On a décidé de ne pas avoir de financement d'entreprise et donc d'avoir que des particuliers. Et donc on avait des petits dons de 5 euros, de 10 euros. Et c'est comme ça qu'au moins les deux premières années, on a fonctionné. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas pérenne parce que tu ne pouvais pas demander aux gens de donner tous les ans. C'est pas possible, les gens sont sursollicités, et surtout avec l'année qu'on a traversée, donc il fallait qu'on ait finalement des acteurs institutionnels qui viennent mettre la main à la pâte, parce que c'est aussi leur rôle. Et donc on a commencé à solliciter des entreprises plus ou moins grandes au départ, avec cette espèce de modèle de se dire c'est pas un one shot, c'est pas un don qu'ils nous font sur une année, mais c'est vraiment un don qu'ils arrivent à nous faire sur 2, sur 3 ans. Ce qu'on appelle des partenariats et des engagements pluriannuels. Et donc ça, c'est une super façon de pérenniser ton truc parce que ça te permet de voir à 3 ans combien d'argent tu vas rentrer. Alors, je pense que je me mets à la place de quelqu'un qui a une asso, qui écoute ce podcast et qui se dit qu'il n'arrive pas forcément à avoir des partenariats pluriannuels. Nous non plus, pas tout le temps. Et il ne faut pas paniquer, quand ce n'est pas le cas. Et je sais que quand on lève des fonds, on est souvent face à un mur en se disant, je sais pas si t'as déjà fait ça, de te dire la montagne à gravir est tellement grosse que je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'y aller étape par étape. Donc, on a des particuliers qui nous donnent, on a des entreprises, candidates à des appels à projets pour des fondations aussi. On a des plus grands donateurs aussi maintenant qui nous soutiennent et qui peuvent donner. Donc on a vraiment, je crois que le plus important, c'est de pas dépendre que d'une seule source de financement, mais vraiment d'avoir plein de sources de financement différentes. Et nous, par exemple, pendant la crise, c'est ce qui nous a permis de faire face parce que les gens ont été hyper généreux. Et en même temps, les entreprises se sont mobilisées aussi à nos côtés. Et donc, on a l'événementiel, par exemple, qui s'est complètement effondré, mais qui a vachement été rattrapé par les entreprises et par les particuliers. Donc, je crois que la clé, c'est de jamais être dans une relation de dépendance quand on parle de financement.
Et est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui souhaitent peut-être lever des fonds, hein, parce que c'est même pour une association, c'est ça le principe. Ouais, si tu as des conseils à partager que tu aurais peut-être aimé savoir avant, ou aujourd'hui tu sais que cette façon-là, ça marche, ou peut-être plutôt faire comme ça.
Alors, il y a plein de choses. Déjà, il faut oser. Moi, je viens d'un milieu où à la fois parler d'argent, c'est pas tabou, et à la fois, on n'ose pas toujours forcément demander. Et donc c'est vrai que moi je n'osais pas forcément demander au départ quand l'entreprise me disait combien vous voulez. J'étais un peu en mode
combien je peux demander.
Combien je peux demander, ça dépend de vous. Voilà, faut oser demander. Je pense que c'est la première chose parce que ça les choque pas forcément les entreprises. Au contraire, alors je dis pas qu'il faut leur dire le ticket d'entrée c'est 100 000 ou rien, mais il faut oser leur dire bah voilà c'est 10 000 ou c'est 15 000 parce que ça va nous servir à ça, ça, ça et ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième, j'ai commencé à y répondre, c'est d'avoir des budgets où on sait où les choses vont. Les gens ont besoin de concret.
Ouais.
Les gens ont besoin de transparence. Et ce qui est génial avec le fait de travailler à l'hôpital et de soutenir les hôpitaux, c'est que c'est hyper concret, c'est très instantané quand on nous fait un don. Et ça, je pense que les gens en ont besoin, que les entreprises en ont besoin. Et donc, il ne faut pas hésiter à dire, bah voilà, ça va servir exactement à acheter 10 kits pour les patients, ou ça va servir exactement à acheter un fauteuil roulant, ou ça va servir exactement à tel truc ou tel truc. Et voilà, et je pense que c'est ces deux clés au départ pour lever des fonds qui m'ont vachement aidé.
Et comment tu sais à quelle porte toquer ? Est-ce que tu toques du coup à plein de portes dans l'espoir d'avoir une réponse ?
Ouais, tu toques à 100, il y en a 10 qui te répondent.
Est-ce que t'as des tips même pour réussir à avoir des contacts ? Parce que j'imagine que tu veux écrire à une grosse structure, t'as pas forcément le bon contact pour... Enfin, tu vois, par où t'as commencé à ce moment-là ? T'as fait ça ?
Ouais.
Je vais écrire machin, arrobase, ouais.
Et il y a un truc qui s'appelle Mail Tester en ligne et tu peux tester les trucs.
Donc gros,
ça, c'est ce qu'on faisait au début, ouais, exactement. C'est ce qu'on faisait au début. Et après, c'est aussi un réseau qui se construit. C'est-à-dire que tu as une base d'une dizaine de structures qui te soutiennent au départ. Et tu vois, là, pendant la crise de Covid, on avait 125 partenaires qui sont venus à nos côtés. Mais on n'avait pas du tout 125 partenaires avant la crise. C'est aussi parce que chaque partenaire a fait appel à ses partenaires, à lui. Et en fait, la clé, c'est de transformer les gens qui te soutiennent en ambassadeurs aussi. C'est-à-dire que c'est pas que moi qui vais lever des fonds. Chaque personne qui s'engage dans l'écosystème d'AIDA, qui soit parrain, qui soit bénévole, qui soit voilà, a ce rôle d'ambassadeur-là aussi, de porter le message. Et parce qu'il va parler d'AIDA autour de lui, peut-être que parce que des gens écouteront ce podcast aussi, donc bienvenue en tant qu'ambassadrice, parce que des gens écouteront ce podcast, en fait, ils auront envie de s'engager, de nous aider aussi à collecter pour la cause et pour aider encore plus de jeunes. Donc je pense que c'est vraiment une question de porter ce message-là et de porter cette voix-là à une autre échelle et de ne pas avoir honte de la porter. Ce n'est pas de l'argent qu'on demande pour nous, c'est de l'argent qu'on demande pour les patients.
Ouais.
Et donc plus on en aura, plus on pourra aider les jeunes de façon efficace.
Et puis même, je me dis pour des projets entrepreneuriaux, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat, tu vois, tu as fondé une association et en fait, c'est vrai qu'il faut accepter ce truc où parfois on a du mal en tant que Français. Tu as besoin d'argent pour réaliser des projets. Genre, l'argent n'est pas sale, ça ne fait pas de toi quelqu'un de matérialiste, mais c'est le nerf de la guerre et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu disais, vous êtes soutenu. Vous avez une fondation, je crois, aussi.
On a une fondation aussi qu'on a lancée pour soutenir des projets d'autres jeunes qui veulent se lancer en santé et en éducation. Donc on a lancé une fondation aussi l'année dernière. Donc oui, on est soutenu, mais tu as raison, il y a totalement ce truc du tabou autour de l'argent, surtout de l'argent qui est géré par beaucoup de jeunes qui sont très très jeunes et qui en gèrent de plus en plus. Et je pense qu'il n'y a pas de honte aussi à avoir. à demander de l'argent. Parce que quand on a une bonne idée, c'est aussi un travail d'équipe de changer le monde. Il y a ceux qui ont l'argent, il y a ceux qui ont l'idée, et que si on peut faire un duo, c'est cool.
Ouais. Je me demande aussi, comme ça fait depuis quelques années du coup que tu as fondé Aïda et que tu es à fond dessus, t'as jamais eu d'autres idées, d'autres envies? Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. C'est bon, moi, si je m'écoutais, ce que je fais d'ailleurs, du coup, tu fais plein de trucs en même temps. Moi, j'aime bien cette diversité, mais parfois, je me dis, tu vas quand même plus loin quand tu te concentres sur un truc, tu vois. Et toi, c'est vraiment Aïda. Mais te connaissant, à mon avis, t'as dû avoir d'autres envies, d'autres idées. C'est pas difficile de se dire, ouais, mais non, en fait, mon énergie, il faut qu'elle soit là.
Alors, c'est une très très bonne question. Le cœur de ce que je fais au quotidien, c'est Aïda. Maintenant, Aïda, c'est pas moi et je suis pas Aïda. Et ça, c'est la clé absolument essentielle. Et donc, si demain, je vais monter un autre projet, bah, rien ne m'empêche de le monter à côté tant que je perds pas le temps qui est attribué à Aïda. Parce
et
que...
le temps n'est pas infini.
Et le temps n'est
c'est
pas
le problème.
Infini. Donc, ça dépend de moi. Est-ce que je veux passer mes week-ends sur autre chose? Est-ce que je veux passer mes soirées sur autre chose? Mais le jour où je me suis rendu compte que je pouvais faire d'autres choses à côté, et j'en ai fait, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas Aïda et qu'Aïda était pas moi. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel pour tout entrepreneur, parce qu'il y a cette espèce de fusion à un moment qui se fait avec ce que t'as créé, et cette espèce d'incapacité à dissocier l'image que les gens ont de toi. Quand j'allais à des soirées où tout le monde me disait « Alors, comment va Aïda ?» Et moi, j'avais envie de leur dire « Les gars, enfin... En fait, Aïda, c'est pas moi. Demandez-moi
c'est
comment
ma grand-mère.
Je vais moi. En fait, oui, c'est ma grand-mère déjà. Et ensuite, aujourd'hui, c'est une structure.
Ouais.
Donc t'as cette espèce de moment où tu fais aussi prendre conscience aux gens autour de toi que, en fait, tu n'es pas Aïda. Et donc, avant de demander comment va l'assaut, il faut te demander à toi comment tu vas. Et ça, je pense que c'est peut-être un truc que tu dois vivre aussi. Comment vont tes projets avant de te demander toi, Louise, comment tu vas? Mais ça, c'est absolument essentiel. Et pour moi, c'est la clé pour pouvoir entreprendre d'autres trucs à côté.
Ouais. Et pourtant, t'as préféré quand même concentrer tes forces sur Aïda, parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a une espèce de... Tu vois, une fois que t'es piqué par l'entrepreneuriat et que tu crées quelque chose, t'as 10 000 idées qui fourmillent et t'as envie de dupliquer ça. Toi, tu t'es posé la question ou pas? Ou ça a toujours été une évidence que dans tous les cas, ton énergie, elle était sur Aïda et elle le serait pendant encore longtemps?
En fait, j'ai fait d'Aïda un terrain de jeu. C'est-à-dire qu'au sein d'Aïda, il y a plein de projets. On a une fondation pour aider les projets qui sont portés par des jeunes. Le dernier projet qu'on a financé et accompagné, c'est le projet d'un jeune homme qui est extraordinaire, qui s'appelle Moussa Silla, qui s'engage à Bagnolet avec toute la communauté, qui a créé une association qui s'appelle la JDB. Et on est allé sur le terrain avec eux, on a passé du temps avec eux, on les accompagne aussi. En fait, au travers d'Aïda, ça me permet de faire plein d'autres choses. Là, on réfléchit à monter une université à destination des patients. Et donc, y a tout un truc un peu différent qu'on monte, ce qui n'est pas forcément lié au cœur de ce qu'on fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est monter des idées et les passer à quelqu'un d'autre. Et puis après, aller monter une autre idée. Et Aïda est un super terrain de jeu pour faire ça, parce que tu as déjà une structure solide qui peut te permettre d'accueillir les projets que tu portes et de les pérenniser après.
Totalement. Je comprends totalement. Et je suis un peu aussi comme ça. C'est marrant. Il y a vraiment... Je déteste généraliser en plus, tu vois, mais plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a un peu des profils.
Ouais.
Et il y a vraiment les profils des gens qui aiment avoir les idées, qui aiment la partie créative, les brainstorms et tout. T'as des gens qui aiment au contraire l'opérationnel, développer, vivre les galères. Genre, je suis très admirative de ce genre de personnes.
Oui, moi aussi.
Ils existent, tu vois.
C'est pas trop mal.
Elles existent. Et puis t'as d'autres qui aiment être dans l'ombre, tu vois, être les petites mains. Enfin, c'est fou, quoi, de se dire. C'est un peu comme l'astrologie. Je pars très loin là. C'est un gros dérivé. Mais
c'est gros dérivé,
tu vois,
là.
Gros dérivé. Je me rends compte qu'il y a quand même. Oui, peut-être. Il y a quand même des vérités, tu vois, qui existent. Je sais pas si t'as déjà fait le MBTI, toi.
Non.
Tu l'as jamais fait?
Non.
Ah ouais, ok. Moi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent.
Bah écoute, tu me le feras faire.
Ah bah, je te le ferai faire. Franchement, en ligne, j'ai jamais voulu le faire. Les personnes qui nous écoutent, MBTI, c'est 16 questions, je crois. Non, 16 profils, mais il y a plus de questions. Et qui définit un peu tes forces, tes faiblesses. Et c'est vrai que je trouve que ça aide à mieux te connaître. Et en fait, c'est vrai, mieux tu te connais, mieux tu sais... ce dans quoi t'es bon. Et typique, c'est aussi quelque chose personnellement que j'ai du mal à faire, c'est-à-dire que quand je lance mes projets, j'ai l'impression que je dois être partout. Donc voilà, le côté on sera jamais mieux servi que par soi-même. Et en fait, du coup, comme c'est moi qui crée le truc, je sais même pas dire ce que je préfère faire sur le coup. Et c'est vraiment un travail que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de me dire, pense pas forcément à ce qui marcherait ou à, tu vois, parce que parfois même j'identifie un besoin, je me dis, bah, faut que je fasse ça, ça va répondre à ce besoin. Ok, c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que toi, t'as envie de la faire? Est-ce que toi, tu serais épanouie dedans? Et c'est vraiment ce que j'essaie de voir en ce moment, même dans mes activités, c'est, bon, maintenant, je grandis, je commence à avoir des personnes qui travaillent avec moi. Où est-ce que j'ai envie d'être, moi? Voilà.
Bah, ça revient à trouver ta place, quoi.
Oui.
Et je sais pas si tu l'as déjà senti, mais je trouve que quand t'es à ta place, t'as une espèce de chaleur en bas du ventre qui te fait sentir le matin quand tu te lèves que... Là, maintenant, là, tout de suite, t'es à ta place. Peut-être dans deux heures, tu le seras plus, mais là, là, maintenant, tout de suite, tu l'es, quoi.
Bah, écoute, non, parce que le grand problème de ma vie, ma jeune vie, c'est de ne pas réussir à ressentir grand-chose dans mon corps. Je suis très cérébrale. Donc, ouais, en fait, je ressens peu d'émotions. Je ressens beaucoup la nostalgie. Je vais avoir des gros moments de joie intense grâce à des musiques, des films, enfin, des trucs très... par rapport au domaine artistique. Et de l'énervement, colère, un truc que je ressens.
T'as déjà essayé la sophro ou pas?
Alors oui, à genre 14 ans, une séance.
Ah oui. Donc moi, c'est pas un truc fameux. Qui a changé ma vie.
Ok.
Moi, je suis hyper cérébrale, ouais. Mais vraiment.
Ok.
C'est-à-dire que les sentiments amoureux, les sentiments amicaux, tout ça, c'est cérébral. C'est-à-dire que c'est
un cœur dans ma tête.
Je comprends pas pourquoi les choses fonctionnent comme ça et pas je ressens les choses comme ça.
Ouais.
Et en fait, j'ai commencé la sophro il y a 2 ans. C'est une amie qui m'a conseillé de commencer. Et en fait, ça m'a vachement aidée à lâcher prise. Et c'est tellement essentiel quand on construit, parce qu'en fait on oublie aussi de se construire soi. Et moi, ça m'a beaucoup aidée à ressentir ces émotions-là et à ressentir des chaleurs dans ton corps à des endroits particuliers où je sais quand je suis à ma place, je sais quand j'ai une boule aussi en bas du ventre qu'il faut que j'arrête ce projet, parce que, et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, où c'était un projet que j'avais lancé qui était top dans l'idée, mais qui en fait va pas aboutir. Et j'ai senti une espèce de boule en bas de mon ventre et je me suis dit, là, c'est juste mon corps. Il n'y a personne plus que mon inconscient qui sait s'il faut y aller ou pas. Et ça permet aussi de suivre ton instinct et de l'écouter. Et moi, Aïda m'a beaucoup appris ça aussi. L'association Aïda m'a beaucoup appris à écouter ce que me disait mon corps, à me rendre compte que quand je n'arrivais plus à me baisser à 21 ans parce que j'avais mal au dos, c'était peut-être qu'il y avait des moments où il fallait faire des breaks. Quand il y a des moments où j'avais mes dents de sagesse qui poussaient tellement qu'il fallait que je reste allongée dans mon lit, c'était peut-être des moments où j'étais très stressée. Et à me rendre compte que quand tu as cette espèce de boule au ventre qui te fait mal le matin quand tu te lèves, tu n'es pas à ta place et qu'il faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire parce que tu es malheureux, parce que tu ne te sens pas bien. Et moi, la sophro, ça m'a vraiment beaucoup aidé à essayer de trouver cet équilibre.
Ok, j'ai bien envie de te demander aussi des questions un peu maintenant pratico-pratiques. Déjà, je me demande, moi, à titre personnel, et je pense que d'autres se demandent aussi, à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui ? Peut-être une journée, t'as repris les cours, parce que je pense que l'année dernière, t'étais en césure pour Aïda ?
L'année dernière, j'étais en 3A, mais à Paris.
Oui, mais donc t'étais en projet personnel ou pas du tout ? Tu m'as dit, ça a disparu.
Ça a disparu, ouais.
Ça a disparu après nous. Après mon année.
Ouais, après ton année et celle d'Hugo, si tu nous entends, merci beaucoup.
De rien. Ouais, donc t'étais en 3.
J'étais en 3, par contre, Sciences Po m'a laissé faire ma 3 à Paris, ce qui était quand même plutôt cool.
De toute façon, tu serais pas allée quelque part l'année dernière.
Non, de toute façon, oui, pardon de dire ça pour tous ceux qui sont partis et revenus, mais de toute façon, je serais pas allée très loin, effectivement. Et donc une journée normale, à quoi elle ressemble? Je me lève tôt pour faire tout ce qui est mail, etc. Comme ça, c'est traité. J'arrive au bureau d'Aïda à 8h30, 9h. Les équipes arrivent, on petit-déj ensemble, on fait un point sur la journée. Puis ensuite, j'enchaîne des rendez-vous et parfois des cours entre les rendez-vous ou des cours en même temps que les rendez-vous. Ça, c'est toujours le moment un peu marrant.
C'est là où Zoom est pratique.
C'est là où Zoom est hyper pratique.
On va pas se mentir. J'espère que ma directrice de master n'écoute pas ce podcast.
J'espère aussi, sinon vraiment dédicace. J'ai aucune absence ce semestre, je tiens juste à le repréciser. Parce que j'en ai une, mais je me faisais opérer des dents de sagesse, ça compte pas.
C'est une bonne excuse.
Voilà. Et donc du coup, j'enchaîne cours et Aïda au bureau, j'essaie de les prendre depuis le bureau. On a fait des petites salles de silence aussi pour que parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui travaillent chez Aïda à Cartan, donc du coup qu'ils puissent aussi prendre leurs cours avec Zoom à distance. J'essaie toujours de me faire une pause, j'essaie de rentrer à pied généralement. J'habite à 1 heure du bureau à pied, donc j'essaie toujours de me faire 1 heure à pied parce que ça me permet de me vider un peu la tête.
Ouais.
et de faire naître des idées aussi. Et voilà, je me fais un temps de break quand j'arrive à la maison. Et puis après, je me remets à bosser. Puis généralement, je me regarde une série kitsch, soit sur Netflix, soit... les séries un peu à deux balles sur TF1.
Mais tu vois, mais c'est fou. C'est fou à quel point... Mais moi, c'est un truc où je dis... Enfin, parfois, je m'auto-flagelle. Parfois, je me dis, mais c'est normal. Quand j'y pense, c'est vraiment normal. C'est que, du coup, franchement, ce que je regarde, c'est médiocre.
C'est de la merde.
J'aimerais bien, tu vois, regarder des films d'auteurs, des films qui font réfléchir, des séries travaillées. Mais non, moi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de regarder les Winx.
J'ai regardé une série que je ne vais pas citer sur TF1, mais je pleurais parce que mon personnage préféré était mort. Mais vraiment, j'étais très émue. En plus, elle était maman. J'ai même appelé ma maman en lui disant que je l'aimais et que vraiment, j'espérais qu'elle ne me ferait jamais ça parce que c'était horrible, parce que là, j'étais bouleversée par ce qui se passait. J'ai une super copine qui m'a appelée, j'étais en larmes et elle s'est foutue de ma gueule. Elle m'a dit, mais tu te rends compte devant quoi tu pleures, quoi. C'est la série, il n'y a plus kitsch, tu meurs. Et donc voilà. Mais ça vide la tête, je trouve.
Bah, en fait, je trouve qu'il y a besoin de... Vraiment, moi, je me suis vraiment dit, quand j'ai commencé à regarder de plus en plus de Disney, mais je me suis dit, putain, Louise, plus tu grandis, plus t'as besoin de regarder des trucs genre de gosse. Et en fait, je pense vraiment mon cerveau qui est là en mode, bon, t'es mignonne, tu vois, à travailler 15 heures par jour, mais bon, alors moi, c'est clairement pas une fois par jour, mais une fois par semaine, regarde-toi, un petit, tu vois, avant-hier, j'ai regardé Pocahontas et j'ai kiffé. Et en plus, c'est même pas, enfin, je kiffe sur le moment, mais c'est plus, je kiffe l'idée de me dire, ah putain, ce soir, je coupe, je vais regarder un truc bien niais, tu vois, bien genre.
Ah oui, moi, plus c'est niais, plus... Ouais, plus voilà. Et j'aime bien avoir un fond sonore aussi quand je bosse. Donc,
ah ouais, alors moi, par contre, c'est dead. Alors, moi, il faut dépend. Que personne
cours,
ne respire, genre.
À mes cours, il n'y a pas personne qui respire. Mais par contre, quand je fais mes mails ou voilà, j'aime bien avoir un fond sonore.
Ouais. Moi, franchement, j'aimerais bien. Parce que je peux dire, c'est problématique. Hein. Vraiment, même travailler... Alors, quelqu'un d'autre, en fait, ça me distrait, tu vois.
Alors, je ne dis pas avoir quelqu'un d'autre. Hein. Je dis avoir la télé en fond. Ouais. Quelqu'un d'autre, c'est no way. Ouais. Il y a quelqu'un qui parle quand je bosse.
Mais donc, comment tu fais au bureau? T'as un casque sans bruit?
Ouais,
parce que moi, je pense de plus en plus à m'acheter un casque anti-bruit parce que, ouais, c'est compliqué. All right, bon, on va arriver aux petites questions de la fin. est-ce que déjà, tu peux me dire s'il y a une ressource? Ça peut être la série que tu regardes.
Non, ça je ne donnerai être... pas, j'ai trop.
Non, mais tu vois, parce qu'en fait, c'est franchement, c'est chiant parce que je me dis, tu vois, la question, c'est un peu si t'as un livre ou une ressource à conseiller. Et typique... Moi, cette question, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour les gens peut-être qui n'ont pas écouté d'autres podcasts. Je vous invite à écouter les autres. Mais genre, Mindset de Carol Dweck, c'est un livre génial, tu vois. Mais en fait, voilà, en ce moment, j'ai même plus la foi de lire ce genre de livre parce que ça demande trop de concentration et je préfère lire Bridgerton. Pas mal du tout. Un peu niais, mais pas mal du tout.
Ouais. Moi, j'ai un peu le même feeling que toi. J'aimais bien lire des livres qui me ressourçaient vachement. Le dernier que j'ai lu, c'est le dernier de Gisèle Halimi et ça m'a vachement donné de l'énergie.
D'accord.
Maintenant, je crois que j'ai envie de dire que moi, ma ressource, je la puise aussi dans les gens. Et moi, on me demande souvent qui m'inspire. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que c'est pas quelqu'un de connu qui m'inspire, c'est les bénévoles qui s'engagent au quotidien avec Aïla. Avant Covid, j'adorais aller petit déjeuner une fois par semaine. Avec un jeune qui était engagé, parce que je trouvais qu'il me donnait une énergie dingue et qu'il donnait l'énergie de alors sans lui piquer son énergie à lui, mais en l'admirant en fait. Et par le fait que je l'admirais, je réussissais à retrouver cette espèce d'énergie de quand j'avais 15 ans et cette espèce d'énergie qu'il te faut quand t'es en face d'un mur qui est compliqué à sauter et qu'il faut absolument que tu sautes. Et je pense qu'aujourd'hui, l'inspiration, je l'appuie aussi dans les gens et dans la rencontre avec les gens. Je trouve que le contexte qu'on vit nous a complètement isolés des gens et que c'est pas pour autant qu'il faut arrêter de puiser l'inspiration dans des gens extraordinaires qui nous entourent, qui sont pas forcément des gens connus, mais qui sont des gens passionnés, dans mon cas, des chercheurs, des médecins, d'autres présidents d'assaut, des patients, des bénévoles, qui sont juste extra et qui, moi, me donnent la ressource. Si tu veux, pour toujours essayer de tirer le meilleur de la situation, d'être bienveillante aussi avec les autres et avec moi, et d'essayer de penser plus grand pour la cause.
Ouais. Est-ce qu'il y a des rituels, des habitudes qui t'aident au quotidien? Tu as parlé de la sophro. Est-ce qu'il y en a d'autres? Des outils, tu vois, qui
t'aident
vraiment?
Moi, j'adore marcher. Ouais. J'adore marcher. Et je crois que le fait de marcher me vide beaucoup la tête.
Ouais.
Donc, je dirais... Je dirais cette appli de méditation, la Sophro.
C'est laquelle l'appli de méditation?
Alors, c'est une bonne question. Il faut que je regarde sur
c'est
mon...
C'est pas calme?
C'est calme et j'en ai découvert une autre il n'y a pas longtemps. C'est un petit rond orange sur
Headspace.
Fond. Ouais.
Ok. J'utilise Headspace. Je préfère Seven Mind qui est français. Ou allemand d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, européen. C'est des applis très cool. Très cool de méditation.
Ouais, assez cool. Et après, moi, ma sophro m'a enregistré un petit truc sur mon portable, et donc je l'utilise aussi régulièrement. Et avant Covid, j'aimais beaucoup nager aussi. Mm. Ça me vidait vachement la tête. Donc je dirais nager ou marcher. Alors courir, pas du tout, mais
ouais.
Nager ou marcher, moi, c'est des rituels qui me vide pas mal la tête. Puis après, appeler une copine, c'est toujours sympa.
C'est clair. Bon, du coup, deux petites dernières questions pour toi, Léa. Ouais. S'il y a une personne que t'aimerais entendre au micro d'InPower, qui est-ce que ce serait ?
Un jeune homme dont j'ai déjà parlé qui s'appelle Moussa Silla, qui est juste extraordinaire et avec qui je peux te mettre en lien si tu veux.
Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Du coup, je vais te poser la question signature d'InPower. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Prendre le pouvoir de sa vie, c'est se sentir à sa place et sentir qu'on a le droit et qu'on est légitime d'être à cette place-là.
Trop cool. Bah merci beaucoup Léa pour ce super épisode. Vraiment,
merci à toi.
Bah encore une fois, je n'ai pas vu le temps passer. Enfin, ouais, je sens vraiment qu'à un moment, je vais péter un câble, je vais faire des soirées podcast, en fait. On ne sera pas limité dans le temps, où je peux laisser les invités rester 3 heures.
Marathon podcast.
Ah, c'est un concept. Bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur Aïda, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Alors, on a un site internet, associationaïda.org, et puis on a une page Instagram, Association Aïda.
Super, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, et bah, j'espère à très vite.
À très vite, merci.
Merci de m'être rejoint à ma conversation avec Léa. Si cette conversation vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous faire savoir en story et en post Instagram en nous taguant @associationaïda et @mybetterself. On est toujours hyper contents de voir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.